chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle et très longue série. Ce sera très important concernant la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous commencerons par la chute. Donc, de la chute à l'incarnation, c'est le commencement de la rédemption. Les grandes choses que Dieu fait pendant cette période entière ont toutes un caractère préparatoire. De grands et nombreux changements ont lieu, des révolutions s'accomplissent, mais toutes ces choses ne sont que les diverses dispensations de la providence de Dieu pour préparer la venue de Jésus-Christ. C'est cela surtout que Dieu se propose dans tout ce qu'il fait à l'égard de son Église. Elle se trouve sous diverses dispensations, elle passe par une grande variété de circonstances avant la venue de Christ. Mais toutes ces choses ont lieu pour préparer cet événement. Dieu sauve des hommes durant toute cette période. Bien que le nombre des sauvés soit fort peu considérable en comparaison de ce qu'il sera plus tard, eh bien tout cela a lieu par anticipation. Tous ceux qui sont sauvés avant la venue de Christ ne sont que des prémices. Ce sont donc que des prémices de la moisson future. C'est cela. Dieu délivre donc souvent son Église ainsi que son peuple avant déjà de la venue de Jésus. Mais ce sont là que des symboles, vous l'avez compris, ce sont des signes avant-coureurs de la grande délivrance qui se propose d'accomplir. Qu'il se propose, vous l'avez compris, Jésus, de s'accomplir. L'Église, durant cette période, jouit donc de la lumière de la révélation. Elle possède, dans une certaine mesure, la lumière de l'Évangile. Mais ces révélations partielles ne sont que des gages de la grande lumière que doit apporter celui qui viendra. Lui, Jésus, pour être la lumière du monde. Toute cette période est comme le temps de ténèbres pendant lesquels l'Église, il est vrai, n'est pas complètement privée de toute lumière, oh non, mais ce n'est en quelque sorte que la lumière de la lune et des étoiles, fort peu éclatante, d'accord, en comparaison de celle du soleil, et obscurcie, bien sûr, par beaucoup de ténèbres. Le premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été autant que le second. Le second qui remporte de beaucoup en gloire. Vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Surtout n'oubliez pas de noter les citations bibliques pour que vous puissiez vérifier que vraiment on vous dit que ce que la Bible nous transmet. À la vérité, l'Église était en possession de la lumière du soleil, mais elle lui arrivait en quelque sorte comme réfléchie par la lune et les étoiles. Pendant tout ce temps, l'Église est dans un état de minorité. Or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoique il soit maître de tout. Mais il est Il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père, par Dieu le Père. Et nous aussi, chers amis, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis sous les rudiments du monde, selon Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Pour plus d'ordre et de clarté, je subdiviserai cette période en six époques. Premièrement, nous avons l'époque de la chute au déluge. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Deuxièmement, nous avons l'époque du déluge à la vocation d'Abraham. Troisièmement, nous avons l'époque de la vocation d'Abraham à Moïse. Quatrièmement, nous avons l'époque de Moïse à David. Cinquièmement, nous avons l'époque de David à la captivité de Babylone. Et sixièmement, nous avons l'époque de la captivité de Babylone jusqu'à l'incarnation. Donc, la première époque, c'est celle de la chute au déluge. Bien que cette époque soit la plus éloignée, on peut bien le dire, et même très éloignée de l'incarnation de Christ, cette grande œuvre commence déjà. Premièrement, dès que l'homme tombe, l'homme chute, Christ, Jésus, commence ses fonctions de médiateur. Il entreprend ce dont il s'est chargé dès avant la fondation du monde. De toute éternité, il s'était engagé avec le Père à agir comme médiateur entre lui et les hommes, aussitôt que l'occasion le demanderait. Le temps est maintenant venu et Christ, le Fils éternel de Dieu, révèle son caractère de médiateur et se présente immédiatement devant le Père. Il se présente comme médiateur entre sa sainte et infinie majesté offensée, on peut bien le dire, et de cette humanité terriblement pécheresse. Son interposition est donc acceptée, et ainsi la colère de Dieu ne fait pas venir sur l'homme toutes les conséquences de la surprenante malédiction qu'il a attirée sur lui. Il est donc manifeste que Christ Jésus commence à remplir les fonctions de médiateur entre Dieu et l'homme, et cela immédiatement après la chute, puisque aussitôt après, il y a eu un déploiement de miséricorde envers l'homme. Dieu usa de miséricorde en patientant et en ne détruisant pas l'homme, comme il avait du reste prévu, comme il a puni, souvenez-vous, les anges, après leur chute, il y avait de quoi. Or, il n'y a pas de miséricorde exercée envers les hommes déchus, si ce n'est par le moyen d'un médiateur. Si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait pas retenu Satan, celui-ci se serait immédiatement emparé de sa proie. Christ commence donc son rôle d'intercesseur en faveur de l'homme aussitôt après qu'il est tombé, après la chute, car il n'y a d'autre miséricorde pour l'homme déchu que celle qui est obtenue par l'intercession de Jésus-Christ. Dès ce moment, Christ entre dans l'exercice de toutes ses fonctions et se charge de prendre soin de l'Église. Il entreprend l'instruire. Il entreprend donc d'instruire l'humanité en sa qualité de prophète, en sa qualité d'intercéder pour l'homme déchu, en sa qualité de sacrificateur, en sa qualité de gouverner l'Église et le monde, et en sa qualité de roi. À partir de ce jour-là, il se charge de défendre son peuple contre tous ses ennemis. Dès le moment où Satan, le grand ennemi de Dieu, a vaincu et perdu l'homme, le soin de lui résister et de le vaincre est donc maintenant confié à Jésus-Christ. Jésus entreprend de se rendre désormais maître de son adversaire subtil et puissant. Il est alors choisi capitaine des armées de l'Éternel, capitaine de leur salut. À l'avenir, le gouvernement du monde, avec tout ce qui s'y rattache, est dévolu au Fils de Dieu, l'homme ayant péché. Dieu n'a plus de rapport immédiat avec l'humanité qui a apostasié et qui s'est révoltée contre lui. Désormais, il n'agira plus que par l'intermédiaire d'un médiateur, soit qu'il s'agisse d'instruire les hommes, de les gouverner ou de leur accorder quelques faveurs. Et c'est pourquoi, quand nous pouvons lire dans l'histoire sacrée, il faut bien le dire, ce que Dieu a fait de temps en temps pour son Église et pour son peuple, comment il se révéla, eh bien nous devons entendre ces choses comme s'appliquant spécialement à la seconde personne de la Trinité. Quand il est question d'apparition de Dieu après la chute, sous quelque forme visible ou sous quelque symbole de sa présence, nous devons ordinairement, sinon dans tous les cas, comprendre tout cela du Fils de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est au sein du Père. C'est celui seul qui nous l'a révélé, selon saint Jean, chapitre 1, verset 18. Et c'est pourquoi il est appelé l'image du Dieu invisible, Colossiens, chapitre 1, verset 15. Ce qui veut dire que bien que Dieu le Père soit invisible, pourtant Christ est son image ou sa représentation, et cela au moyen de laquelle on peut le voir. Ce monde n'a pas été seulement dévolu à Christ pour en prendre soin et pour le gouverner en vue de la rédemption, mais aussi, à certains égards, à l'univers tout entier. Et dès ce moment, les anges lui sont soumis dans ses fonctions de médiateur, ainsi qu'on le voit par l'histoire biblique, qui nous parle des anges comme d'esprits administrateurs dans les affaires de l'Église. Ce sont donc des esprits administrateurs pour nous venir en aide dans les affaires de l'Église. Et c'est pourquoi il est permis de supposer qu'immédiatement après la chute d'Adam, il fut proclamé dans les cieux, au milieu des anges, que Dieu avait le dessein de racheter l'homme déchu, que Christ s'était chargé du rôle de médiateur entre Dieu et l'homme, et qu'ils avaient à lui obéir dans l'exercice de ses fonctions. Merci Seigneur. de même qu'en entrant dans cette charge, il fut solennellement installé roi du ciel, Jésus, pour être désormais en qualité de Dieu homme, comme la lumière qui est le soleil des cieux. Notez Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Ainsi, cette première révélation aux anges fut en quelque sorte comme l'aurore de celle qui devait avoir lieu ici-bas. Quand Christ monta aux cieux après sa passion et qu'il s'assit solennellement sur son trône, alors le soleil se leva dans les cieux et même l'agneau qui est la lumière de la nouvelle Jérusalem. Zweitens, deuxièmement, d'abord, après cela, l'Évangile fut pour la première fois révélé sur la terre en ces mots « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et la semence de la femme et cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Notez Genèse, chapitre 3, verset 15. Chers amis, nous devons supposer que Dieu proclama son intention de racheter l'homme déchu, premièrement dans les cieux, et ensuite sur la terre. Le fait que les anges, oui, que les anges, sont des esprits administrateurs aux ordres du médiateur, exigerait qu'il en fût ainsi, car il fallut que, aussitôt que Christ commença son œuvre de médiateur, les anges étaient prêts pour lui obéir, en sorte que la lumière apparut d'abord dans les cieux, pour se faire jour sur la terre bientôt après. Par ces paroles, Dieu déclara qu'il y avait une autre garantie pour l'homme après la perte de la première. Ce fut là la première révélation de l'Alliance de grâce, la première aurore de la lumière de l'Évangile sur la terre. Avant la chute, ce monde était en jouissance d'une lumière éclatante provenant de la connaissance de Dieu, de sa gloire et de sa faveur. Mais quand l'homme tomba, cette lumière s'éteignit tout à coup et le monde retomba dans une obscurité complète. Oui, une obscurité plus profonde que celle qui existait au commencement du monde. Notez la Genèse chapitre 1 verset 2. Une obscurité mille fois plus irrémédiable que la précédente. Les hommes et les anges étaient impuissants pour trouver un moyen de dissiper ces ténèbres. Elles se montrèrent dans toute leur obscurité lorsque Adam et sa femme s'aperçurent qu'ils étaient nus et qu'ils ont commencé à coudre des feuilles de figuier pour se couvrir lorsque, entendant la voix de Dieu qui marchait dans le jardin, ils se sont cachés, oui, ils se sont cachés parmi les arbres quand Dieu les a appelés pour la première fois à rendre compte. Et Dieu a dit à Adam, « Qu'as-tu fait ? N'as-tu pas mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Nous pouvons supposer que alors leur cœur fut saisi de honte et de terreur. Toutefois, ces paroles de Dieu, selon la Genèse chapitre 3, verset 15, ont été les premières lueurs de la lumière de l'Évangile après cette affreuse obscurité. avant cela. Il n'y avait pas le moindre rayon de lumière pour les consoler, par la moindre espérance. Il n'y avait aucune espérance. Ce fut une révélation obscure, il est vrai, mais intelligible de l'Évangile. À la vérité, Dieu ne la donna pas directement à Adam et Ève, mais elle était contenue dans ce qu'il dit au serpent. Il y avait dans ses paroles la semence de la femme, la déclaration non équivoque d'intention miséricordieuse, quelque chose comme la faible lueur de lumière apparaissant à l'Orient quand le jour commence à poindre. Cette promesse miséricordieuse a été faite avant même que la sentence n'a été prononcée contre Adam et Ève, par égard pour eux, de peur qu'ils fussent écrasés par une sentence de condamnation, n'ayant rien qui leur permet d'espérer. Alors, un grand objet que Dieu se propose dans l'œuvre de la rédemption est encore plus clairement mis en lumière, c'est de savoir que tous les ennemis de Dieu doivent être foulés aux pieds par son Fils. Le dessein de Dieu est ici révélé pour la première fois. Satan, sans doute, triompha beaucoup de la chute de l'homme. Supposons qu'il avait renversé les desseins que Dieu s'était proposés par la création, mais, par ses paroles, Dieu lui déclara ouvertement qu'après tout, il ne triomphera pas, mais que la semence de la femme remportera sur lui une victoire absolument complète. Cette révélation de l'Évangile fut donc le premier acte de Christ comme prophète. Depuis la chute de l'homme à l'incarnation de Christ, Dieu s'occupe de ces choses qui doivent préparer la venue de Christ, le Rédempteur, qui lui en sont les signes précurseurs et les arts. Donc une de ces choses préparatoires, c'était d'annoncer, de promettre cette rédemption comme il l'a fait d'âge en âge jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Telle a été la première promesse de sa première prédication, ou de prédiction, ça serait plus juste de le dire. Alors je répète la phrase pour qu'elle soit correcte. Telle fut donc la première promesse de Jésus-Christ et sa première prédiction. Troisièmement, bientôt après, les sacrifices furent institués pour être un type permanent du sacrifice de Christ jusqu'au moment où il viendra lui-même s'offrir à Dieu. Les sacrifices ne furent pas institués par la loi lévitique. Il faisait déjà partie du culte que Dieu avait institué dès le commencement. Il est dit que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont offert des sacrifices, et avant eux déjà Noé et Abel. Et ils étaient, d'institution absolument divine, car il faisait partie du culte de Dieu que son Église offrait par la foi et qu'il acceptait. Cela prouve bel et bien qu'ils étaient d'institution divine, car les sacrifices ne font pas partie du culte naturel. La lumière naturelle n'enseigne pas aux hommes à offrir des animaux en sacrifice à Dieu, et puisqu'ils n'étaient pas enjoints par la loi naturelle, ils doivent, puisqu'ils étaient acceptables aux yeux de Dieu, ils doivent avoir été offerts en vertu de quelques institutions ou commandements positifs, car Dieu a déclaré son horreur pour un culte qui se célèbre sans la volonté et qui ne repose que sur des préceptes humains. Je dis bien, il ne voulait pas quelque chose qui soit fait sans sa volonté. Notez Ésaïe, chapitre 29, verset 13. De plus, un culte qui n'a pas pour garantie une institution divine ne saurait être offert par la foi là où il n'y a pas de commandement. Les hommes ne sont pas autorisés à compter sur l'acceptation de Dieu pour les choses qu'il n'a pas déterminées et qu'il n'a pas promis d'accepter. De là, nous concluons que l'usage d'offrir des sacrifices à Dieu a été institué bientôt après la chute, car la Bible nous enseigne que Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Notez bien la Genèse, chapitre 4, verset 4, et que Dieu a accepté son offrande, Hébreux, chapitre 11, verset 14. Rien dans le récit n'indique que l'institution a été établie seulement au moment où Abel a offert ce sacrifice à Dieu. Il paraît au contraire qu'il n'a fait que se conformer à un usage qui a été déjà existant. Il est même très probable que les sacrifices ont été institués d'abord après que Dieu a révélé l'alliance de grâce. Genèse chapitre 3, verset 15. Comme étant la fondation sur laquelle devait reposer la pratique des sacrifices. Cette promesse de grâce a été la première pierre apportée à la construction de ce magnifique édifice qui est l'œuvre de la rédemption, l'institution des sacrifices, pour être un type du grand sacrifice. Donc, ça fut la seconde. Et la première chose qui a été rapportée après que Dieu a prononcé sa sentence de malédiction contre le serpent, l'homme et la femme, c'est qu'il leur a fait des habits de peau et il les a revêtis. Vous l'avez compris, la première chose qui a été rapportée après que Yahvé l'Éternel a prononcé sa sentence de malédiction contre le serpent, mais pas seulement, mais aussi contre l'homme et la femme, c'est que Dieu leur a fait des habits de peau et les a revêtis. On croit généralement qu'il s'agit de peaux d'animaux qui ont été offerts en sacrifice, car il n'est question, jusqu'après le déluge, d'aucune autre coutume pouvant occasionner la mort des animaux, si ce n'est pour les offrir en sacrifice. Malheur donc aux végétariens et aux végas, etc. Avant le déluge, les hommes n'avaient pas l'habitude de faire de la chair des animaux leur nourriture ordinaire, c'est vrai. Ça, c'est avant la chute, car les fruits des arbres du paradis servaient amplement à la nourriture de l'homme. Il y avait les protéines, il y avait toutes les vitamines, etc. Et après cela, ce furent les produits des champs, selon la Genèse, chapitre 3, verset 18. Il ne faut pas dénigrer les saintes Écritures, mais il faut les respecter et ne pas faire des philosophies particulières qui nous viendraient des Indes ou de n'importe où. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans des travers. Donc, je répète, la permission de faire de la chair des animaux leur nourriture ordinaire ne leur fut donnée qu'après le déluge. Tout ce qui se meut, donc tout ce qui existe, et qui a vie vous sera pour viande, est-il dit. Je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Genèse chapitre 9, verset 3. Vous savez, il est facile de élaborer des nouvelles philosophies. Mais pourquoi s'écarter de la sainte parole de Dieu? Du reste, si cela vous intéresse, vous pouvez trouver sur Internet www.bibleexplique.ch tout ce qui concerne les anges, l'importance des anges, tout ce qui concerne l'enfer et tout ce qui concerne le ciel. Et même, je vous conseille d'écouter le témoignage fabuleux de Marietta. Vous pouvez trouver tout cela sur Internet, www.bibleexplique.ch. De sorte qu'il est probable, chers amis, que les peaux desquelles Adam et Ève ont été revêtus, et c'était bel et bien celles des animaux sacrifiés. En les revêtant ainsi, Dieu a donné une vive image de ce qu'il devait arriver plus tard quand il serait revêtu de la justice de Jésus-Christ. Ils ne s'étaient pas procurés eux-mêmes ces vêtements, mais Dieu les leur a donnés. Il est écrit que Dieu leur a fait des robes de peau et les en a revêtis, comme pour dire à peu près que la justice dont nous sommes revêtus, elle vient bel et bien de Dieu. Lui seul peut recouvrir la nudité de notre âme. Nos premiers parents, qui étaient nus, furent revêtus aux dépens des animaux qu'il fallait mettre à mort pour leur procurer des vêtements. Christ aussi a été mis à mort, ne l'oubliez jamais, pour recouvrir nos âmes, nos esprits, du manteau de sa justice. Le tabernacle dans le désert, qui représente l'Église, était couvert de peaux de bélier teintées en rouge. Elle semblait avoir été plongé dans le sang pour signifier que la justice de Dieu, de la justice de Jésus-Christ, s'obtiendrait par les souffrances, oui, par les souffrances mortelles au milieu desquelles Jésus a versé son sang précieux à la croix. Nous avons déjà remarqué que la lumière dont l'Église jouit depuis la chute de l'homme jusqu'à la venue de Christ, a été un peu comme celle qui nous éclaire pendant la nuit, c'est-à-dire une lumière qui ne vient pas directement du soleil, mais qui est réfléchie par la lune et les étoiles. Elle était donc une image de Jésus-Christ, qui lui est le soleil de justice, qui devait se lever plus tard. Il obtenait cette lumière de deux sources principales, les prédictions de la venue de Christ, les types et les ombres qui préfiguraient sa venue et la rédemption qu'il devait accomplir. La promesse dont nous avons parlé leur était venue par cette première voie, l'institution des sacrifices par la seconde. De même que la promesse, notez Genèse chapitre 3, verset 15, fut le premier rayon de lumière après la chute, qui a été obtenu prophétiquement. Ainsi, l'institution des sacrifices a été la première allusion typique. Christ a donné la première en qualité de prophète, et la seconde en qualité de sacrificateur. L'institution des sacrifices a été un grand pas, un grand pas qui a été fait pour préparer la venue de Christ et l'œuvre rédemptrice. Car les sacrifices de l'Ancien Testament furent le principal de tous les types de Christ et de sa rédemption. Ils servirent surtout à développer dans l'esprit des membres de l'Église visible l'idée de la nécessité d'un sacrifice propitiatoire qu'il fallait offrir à Dieu en satisfaction du péché, et ainsi il préparerait la voie pour l'Évangile qui révèle ce grand sacrifice non seulement à l'Église visible, mais également au monde entier. En effet, c'est à cette institution des sacrifices que remonte l'usage de toutes les nations d'offrir à leur Dieu des victimes expiatoires pour leurs péchés. Et cette coutume se trouve même chez les nations, même les plus barbares. Vous serez étonnés. On a découvert, même au fond des forêts vierges, des civilisations très anciennes, évidemment primaires, mais qui utilisaient déjà et encore les sacrifices pour laver en quelque sorte leurs péchés, si on peut le dire ainsi. Et c'est là une grande preuve de la vérité de la religion révélée, car aucun peuple, si ce n'est celui des Juifs, n'a pu dire comment il en est venu à cet usage, ni indiquer le but qu'on se proposait en faisant des sacrifices aux dieux. La lumière de la nature ne leur a enseigné rien de semblable. Elle ne leur enseigna pas que les dieux, vous avez compris, des humains qui sont fabriqués de mains d'hommes, étaient soi-disant affamés et se nourrissaient de viande qu'on leur offrait en sacrifice. Pourtant, voyez-vous, malgré tout, tous les peuples avaient cette coutume-là. Le fait ne peut être expliqué, je pense, qu'en admettant qu'ils l'ont tenu, qu'ils l'ont tiré des temps de Noé, qui lui l'avait reçu de ses ancêtres aussi, et qui Dieu l'avait donné comme un grand type du sacrifice de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, par ce moyen-là, toutes les nations crurent, ont pu croire à la nécessité d'une expiation ou d'un sacrifice expiatoire, et ainsi elles furent préparées à recevoir la grande doctrine évangélique d'une expiation et d'un sacrifice de Jésus-Christ. Quatrièmement, bientôt après la chute, Dieu a commencé à sauver des hommes en vertu de la rédemption de Christ. Et Jésus, qui venait d'entrer dans ses fonctions de médiateur entre Dieu et les hommes, agit en les sauvant en qualité de roi, comme en instituant les sacrifices. Il avait agi en qualité de sacrificateur et en qualité de prophète en annonçant pour la première fois la rédemption. La rédemption a commencé donc à apparaître dans cette prédiction comme étant une prophétie, dans les sacrifices comme un type, et quand des hommes sont sauvés, eh bien comme un type. Et quand des hommes sont sauvés, je viens de le dire, nous avons déjà ces premiers fruits. Il est donc très probable, par conséquent, que Adam et Ève ont été les prémices de la rédemption par Jésus-Christ. Et on le voit à la manière dont Dieu les traite, lorsqu'il les console après leur réveil et leur terreur. Ils sont réveillés rougissant de leur crime, puis leurs yeux sont ouverts et ils s'aperçoivent tout à coup qu'ils sont nus et ils ont essayé de coudre des feuilles de figuier pour couvrir tant soit peu leur nudité. Il en est de même du pécheur, alors qu'il commence à s'apercevoir de ses péchés, il cherche à recouvrir la nudité de son âme du manteau d'une prétendue propre justice. Alors, ils sont de nouveau terrifiés et réveillés en entendant la voix de Dieu qui s'avance pour les condamner. Alors les feuilles de figuier, n'ayant pas tellement répondu au but, ils courent se cacher parmi les arbres du jardin parce qu'ils sont quand même nus. Ils n'osent pas se fier tellement à leurs fameuses feuilles de figuier qui sont, semble-t-il, insuffisantes pour cacher leur nudité aux yeux de Dieu. Alors, ils sont encore troublés par la voix de Dieu qui les appelle pour rendre compte. Mais pendant qu'ils sont saisis de crainte, ainsi qu'il est permis de le supposer, pendant qu'ils sont tremblants et étonnés en présence de leur juge, ne sachant d'où leur viendra la moindre lueur d'espérance, eh bien Dieu lui-même se charge de les encourager pour les préserver contre les terribles conséquences du désespoir en leur laissant entrevoir son dessein de miséricorde avant même de prononcer contre eux de sentence. Et lorsque ensuite Dieu a prononcé contre eux un jugement qui nous pouvons bien le supposer, augmente encore leur crainte, il a soin, Dieu, de les encourager de nouveau et il leur montre qu'il ne les a pas complètement abandonnés, mais pas du tout, en se chargeant de leur faire des habits pour couvrir leur nudité. Dieu montre aussi qu'il accepte les sacrifices qui lui furent offerts comme type de ce qu'il leur avait promis, quand il a dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et il y a tout lieu de croire que nos premiers parents ont vraiment cru à cette promesse-là et qu'ils l'ont reçue avec joie. Ève montre du reste clairement son espérance et sa confiance en cette promesse quand elle a dit à l'occasion de la naissance de Caïn, « J'ai acquis un homme par l'Éternel. » Genèse chapitre 4, verset 1. C'est-à-dire, « Dieu qui m'a promis que ma semence écraserait la tête du serpent, eh bien Dieu me donne maintenant une preuve formelle, une garantie de sa promesse en m'accordant un fils. Elle confesse donc ouvertement qu'elle a acquis un enfant par l'Éternel et elle espère que la semence promise descendra de lui, son fils aîné. Cependant, voyez-vous, elle fut trompée en ceci, comme Abraham l'a été aussi trompé à l'occasion d'Ismaël. Isaac, à l'occasion d'Ésaü, et Samuel, au sujet du fils premier-né de Jessé, ce qu'elle dit à l'occasion de la naissance de Seth, S-E-T-H, exprime surtout son espérance et la confiance qu'elle a en l'accomplissement de la promesse de Dieu, car Dieu m'a donné, dit-elle, un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a malheureusement tué. Genèse chapitre 4, verset 25. Ainsi, il est très probable, sinon même évident, que de même que Jésus-Christ a commencé ses fonctions aussitôt après la chute de l'homme, il a commencé aussi immédiatement à faire produire, on peut dire, à faire produire à l'œuvre de rédemption ses heureux effets. Il s'opposa à son grand ennemi, le diable, qu'il avait entrepris de détruire en rachetant ses deux premiers prisonnières. Il renversa ses plans immédiatement après son triomphe en lui enlevant les prisonniers qu'il venait de faire. Il y a beaucoup à croire que les possédés, eux, et de leur postérité, Christ le Rédempteur montre à l'ennemi bientôt qu'il s'est trompé. Il le lui montre du reste en délivrant ses premiers captifs et en lui donnant de bonne heure, tout aussi tôt que possible, un exemple de l'accomplissement de cette menace. Et la semence de la femme écrasera la tête du serpent, est-il dit ? Et par là, c'est un présage de son triomphe sur tous ses ennemis. Nous avons ensuite un autre exemple dans la rédemption de l'un de leurs enfants, que Abel le Juste, c'est Abel le Juste, comme les Saintes Écritures l'appellent. Il fut peut-être le premier admis dans le ciel, Abel, par suite de la rédemption qui a été faite par Jésus-Christ, du moins, et il est le premier racheté dont la mort est mentionnée. Il fut, en réalité, le premier recueilli dans les cieux. Jusque-là, les effets de la rédemption de Christ avaient consisté à convertir et à justifier les hommes. À sa mort, on a pu voir pour la première fois que leur glorification serait aussi un de ces fruits-là. Et à sa mort, les anges ont commencé leur mission d'esprit administrateur chargé d'introduire les âmes des rachetés dans la gloire. En lui, ils ont donc eu la première occasion de contempler spectacle, un spectacle magnifique, s'il en fut ainsi, un membre de la race déchue, qui par la chute avait été plongé dans un abîme de péché et de misère, qui est maintenant introduit dans le ciel, rendu participant de la gloire céleste. Ce qui était un événement infiniment plus important que s'il l'avait vu en rentrer dans le paradis terrestre. Ainsi, ils ont pu contempler les effets de la rédemption chrétienne dans les honneurs et la fidélité qui furent accordés à de pauvres pécheurs. Cinquièmement, une autre dispensation remarquable de Dieu en faveur de la grande œuvre de la rédemption, cela a été l'envoi extraordinaire du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Jésus-Christ au jour d'Énos. J'ai bien dit Énos et pas Enoch. Et nous lisons que Enos naquit aussi, il naquit aussi un fils à Seth. C'est ça. Il naquit également un fils à Seth et il l'appela Enos. Voilà. Alors, on a pu commencer d'appeler tout cela du nom de l'Éternel, selon la Genèse chapitre 4, verset 26. Voyez-vous, le sens de ces paroles est très controversé. Nous ne saurions supposer que le sens puisse être, par exemple, que les hommes prirent alors pour la première fois, qu'ils ont prié, qu'ils ont commencé à prier pour la première fois. Certainement, car la prière est un des devoirs des plus précieux, des plus importants de la religion naturelle. La piété conduit donc tout naturellement les hommes à la prière. Elle est l'essence même de la piété et nous ne pouvons admettre que pendant plus de 200 années, les hommes pieux aient vécu sans aucune prière. Et c'est pourquoi quelques théologiens pensent que cela veut dire que le culte public a été célébré pour la première fois ou qu'on a commencé d'appeler du nom de l'Éternel dans des assemblées publiques, quoi qu'il en soit. Il faut nécessairement admettre qu'il se passa quelque chose de nouveau dans l'Église concernant l'invocation du Saint-Nom de Dieu, que ce devoir-là, d'une manière ou d'une autre, a été accompli plus soigneusement que par le passé, ce qui doit donc avoir eu lieu par la suite d'une effusion remarquable de l'Esprit-Saint de Dieu. Si les hommes furent alors pour la première fois poussés à se réunir dans les assemblées publiques afin de s'aider mutuellement à rechercher Dieu, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, cela nous conduit à rechercher une cause extraordinaire, et elle ne peut avoir été autre que les influences extraordinaires du Saint-Esprit de Dieu, qui sont toujours accompagnées d'une grande augmentation de l'esprit de prière, quand l'Esprit de Dieu a commencé à opérer dans le cœur des hommes. Il les pousse immédiatement à invoquer le Saint-Nom du Seigneur, et il en fut ainsi de l'apôtre Paul, dont il est dit, après que l'Esprit de Dieu l'eut arrêté, voilà qu'il commence à prier. Il en a été ainsi à l'occasion de toutes les remarques et de les remarquables effets du Saint-Esprit qui ont été mentionnés dans l'Écriture sainte, et il en sera de même au dernier jour, c'est certain. Et même plus que certain, il est prédit que le Saint-Esprit sera répandu comme un esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 10. Même alors, il est dit, je changerai au peuple leurs lèvres en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'une même ou d'un même esprit. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Tout cela, nous voyons, est donc de la plus haute importance. Sixièmement, chers amis, nous devons passer sous silence la vie sainte de celui que Dieu appelle Enoch ou Enoch. Nous avons lieu de croire que Enoch a été un plus grand saint qu'aucun de tous ceux qui l'avaient précédé. De sorte qu'à cet égard aussi, l'œuvre de la rédemption se développa et progressa. Pour ce qui est des effets dans l'Église visible en général, nous avons déjà vu qu'ils furent plus remarquables du temps d'Enos que précédemment. Donc Enoch il fut lui un des saints appartenant à cette moisson, car il vécut dans les jours des noces en cette époque-là. Et pour ce qui est du degré de développement auquel cette œuvre parvient dans le cœur des individus, elle est plus avancée chez Enoch que chez aucun autre avant lui, car il fut un monument surprenant de la rédemption par Jésus-Christ et de l'efficacité de sa grâce. Septièmement, du temps d'Enoch, Dieu révéla la venue de Christ plus clairement qu'il ne l'avait fait jusque-là, desquels aussi Enoch, septième homme après Adam, a prophétisé en disant « Voici le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions pour juger tous les hommes et pour convaincre tous les méchants d'entre eux de toute leur méchanceté, de leurs méchantes actions qu'ils ont commises méchamment et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proféré contre lui. » C'est écrit dans le livre de Jude, chapitre, je crois, 14, verset 15. Huitièmement, un autre fait très remarquable dans le développement de cette œuvre, c'est l'enlèvement de Enoch au ciel. Notez Genèse chapitre 5, verset 24. Du reste, Moïse, en donnant la généalogie des ancêtres de Noé, ne dit pas de Enoch, comme il le fait des autres, qu'il vécut tant d'années, après quoi il mourut, mais il ne parut plus. Enoch ne parut tout à coup plus, parce que Dieu l'a repris et Dieu l'a transporté dans les cieux, corps et âme, sans qu'il eût passé par la mort, ainsi que cela explique Hébreux chapitre 11 verset 5. Ce fait surprenant indique un développement de l'œuvre de la rédemption qui, à plusieurs égards, éclipse tout ce qui avait eu lieu jusque-là. On peut dire donc que, au moment de la résurrection de Christ, les corps de quelques-uns des saints sortirent, est-il dit, de leur sépulture et furent glorifiés. Mais le cas de Enoch est le premier de tous. Et par la suite, il y a eu Élie, rappelez-vous. Il est probable que des anges déchus qui ont suivi Satan ont pris pour femmes des femmes du temps d'avant le déluge. Il y a eu là, en ce temps-là, des géants d'une cruauté et de moralité qui surpassaient de 10 fois les péchés de Sodome et de Gomorre. Dieu, à vrai dire, a dû passer outre et a dû les punir sévèrement et a dû même complètement les détruire par le déluge. C'est vrai. Et neuvièmement, une chose absolument digne d'attention, c'est le soin que Dieu prend de maintenir son Église dans la famille dont Christ doit sortir. Quand les jours de décadence générale qui ont précédé ce fameux déluge, et il est très probable que l'Église a été très peu, de, en très peu de choses en comparaison du reste du monde, à partir du moment où le genre humain a commencé à se multiplier, l'Église de Christ était une minorité, selon la Genèse chapitre 4, verset 16, ou à partir du moment où Caïn est sorti de devant la face de l'Éternel et habita au pays de Nod, c'est-à-dire dans l'exil. L'Église semble donc s'être principalement recrutée parmi les descendants de Seth, car Dieu a choisi sa famille à la place de celle d'Abel, que Caïn, rappelez-vous, avait malheureusement tué. Mais il n'est pas possible de croire que la postérité de Seth ait formé un cinquième de la population du monde entier, car Adam était âgé de 130 années à la naissance de Seth. Or Caïn, qui semble avoir été le chef de ceux qui ne faisaient pas partie de l'Église de Dieu, était le fils aîné d'Adam. Il naquit probablement bientôt après la chute qui a eu lieu elle-même peu de temps après la création de l'homme. De sorte qu'il a eu le temps d'avoir plusieurs enfants avant la naissance de Seth. Et il est de plus très probable que Adam et Ève avaient eu déjà, avant lui, plusieurs enfants, selon la bénédiction qui était dite « Croissez et multipliez et remplissez la terre ». Et ceux-ci, à leur tour, pouvaient en avoir eu d'autres enfants. Donc l'histoire de Caïn, avant la naissance de Seth, semble impliquer que les hommes étaient déjà très nombreux. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, est-il dit dans la Genèse, chapitre 4, versets 14 et 15, et je serai caché devant ta face, et je serai un vagabond, et je serai un fugitif sur la terre. C'est ce que dit Caïn. Et il arrivera que quiconque me trouvera pourra me tuer. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois davantage. Ainsi l'Éternel a mis une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne puisse pas le tuer ou ne le tue jamais. Genèse chapitre 4, versets 14 et 15. Mais après les jours d'Enos et d'Enoch, car celui-ci, comme vous le savez maintenant, a été enlevé au ciel avant la mort des autres, l'Église de Dieu perdit beaucoup en nombre à mesure que la multitude des descendants de Seth se joignirent aux méchants, malheureusement, principalement par la suite des mariages qui étaient mixtes et qui ont eu lieu en ce temps-là. Or, il arriva, est-il dit, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, donc des anges, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent, nous est-il dit dans la Genèse, chapitre 6, verset 1, verset 2 et verset 4. J'ai dit de la Genèse chapitre 6. Il ne serait donc pas faux d'avouer que nous n'avons pas la réponse exacte à ce qui concerne ces hommes puissants et dégénérés. Voyez-vous, l'Église qui avait contribué à retenir les méchants dans de certaines limites s'affaiblit beaucoup et partant l'iniquité commençait à prévaloir, la méchanceté, elle augmenta. Et Satan, cet ancien serpent, le diable, qui avait tenté nos premiers parents et qui s'était donné pour le Dieu de ce monde, s'abandonna à toute sa fureur. Et l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que mal en tout temps. Et la terre était pleine de violence. Il semble qu'elle ait été commencée par être inondée d'iniquité, comme elle le fut plus tard par l'eau. L'humanité entière était donc plongée en ce temps-là dans un mal impensable. Et c'est alors que Satan a fait un violent effort pour détruire toute l'Église, s'il le pouvait, et il fut sur le point de réussir. Mais au milieu de ce déluge d'iniquité et de violence, eh bien Dieu la préserva toujours dans la famille d'où Jésus-Christ devait un jour sortir. Donc Dieu n'a pas permis qu'elle fût détruite totalement, car une bénédiction reposait sur elle. Et cette famille particulière, c'était le tronc d'où devaient sortir plus tard plusieurs générations d'hommes justes, aussi bien qu'il y eut des branches retranchées et que l'arbre eut l'air d'être détruit, néanmoins, Dieu, Yahvé l'Éternel, conserva le tronc en vie pour sa merveilleuse grâce rédemptrice, si bien que les portes de l'enfer ne purent prévaloir contre elle. Et ainsi, j'ai essayé, chers amis, de montrer comment Dieu a poursuivi la grande œuvre de la rédemption pendant cette première époque de la chute jusqu'au déluge. Observons que l'histoire mosaïque, quoique très courte durant cette époque, n'en est pas moins très intelligible et très, très instructive. Il est encore bon de remarquer l'efficace de la rédemption par Jésus-Christ qui porta de si beaux fruits tant de siècles avant sa venue. Nous arrêtons notre étude là et nous continuerons demain matin, Dieu voulant, par notre étude numéro 2, du déluge à la vocation de Abraham. Ça sera pour demain matin, Dieu voulant. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Ô Seigneur, qui daigne conduire et assister tous ceux à qui tu as fait la grâce de t'aimer et de te craindre, accorde-nous la protection de ta providence et affermis-nous pour toujours dans la crainte et dans l'amour de ton saint nom par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, à toi appartient la force, et tu es l'auteur de tout bien et de tout don qui est parfait. Imprime dans nos cœurs l'amour de ton saint nom. Augmente en nous la véritable piété. Remplis-nous de toutes les vertus et nous y affermis par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Et chers amis, merci de bien vouloir vous intéresser à la suite de cette série très importante que, Dieu voulant, je pourrai vous transmettre malgré mon très grand âge. Mais j'ai confiance. Et souvenez-vous que Dieu vous aime tous. Souvent, on peut même dire, en tout cas dans mon cas, qui rejoint votre cas, Dieu nous aime tous tels que nous sommes, avec nos problèmes, avec nos fragilités, et il est prêt de nous sauver tous, si nous le voulons bien, et de nous bénir, de nous aimer, et si Dieu vous aime tellement, il est donc de mon devoir de vous aimer tous de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous avec tout mon amour. Et soyez bénis et n'oubliez pas que nous devrions prier les uns pour les autres. Ça, c'est un de nos devoirs des plus importants. Prions les uns pour les autres. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.